BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
À la bourse, c'est vraiment tout sauf le casino. Le casino, plus on y reste longtemps, plus on risque d'y perdre de l'argent, c'est vrai. Alors qu'en bourse, au contraire, plus vous restez, plus vous lissez vos risques. Oui, vous aussi qui nous suivez, nous écoutez, vous méritez la bourse. Bienvenue à tous, et la bourse mérite votre fidélité. On est ravis de vous retrouver, et on vous accompagne jusqu'à 18h. Aude Kersulek, justement, est au cœur de cette séance boursière, la Tour Euronext. Rebonjour Aude, qui suivait depuis ce matin les marchés. Comment ça se passe cet après-midi pour les marchés en Europe?
On repart de l'avant ce lundi matin. Sur la semaine dernière, on avait quand même perdu à Paris globalement à peu près 1%. Et là, du coup, on repart dans le vert, dans le sillage de Wall Street vendredi. On repart sur un gain de 0,5%. Elle est à quelques points des 7997 avec une très belle performance de Téléperformance. Plus belle hausse du CAC, quasiment 5,5% de hausse. On en parle tout de suite.
Effectivement. Alors, c'est vraiment le retour des mal-aimés. Effectivement, Téléperformance qui a été saluée sur sa publication la semaine dernière et ça continue. Worldline, pareil. Alors peut-être qu'Alstom aura sa chance cette semaine. Un autre mal-aimé du marché qui va annoncer ses résultats, ce sera mercredi. La publication d'Alstom emballera-t-elle, enthousiasmera-t-elle les marchés comme celle des autres mal-aimés? C'est l'un des enjeux, l'une des questions qu'on pose à nos experts. On reviendra également bien sûr sur Apple. Warren Buffett un peu moins friand du titre Apple puisque Berkshire Hathaway a vendu 13% de sa position. Ceci dit, Berkshire reste et de loin le premier actionnaire d'Apple. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cet allègement de l'exposition à Apple? Que craint Warren Buffett? Est-ce qu'il faut craindre, par exemple, avec la présidentielle américaine, un risque antitrust sur certaines GAFAM? Est-ce qu'il faut craindre un risque fiscal aussi avec cette présidentielle qui approche? On essaiera de démêler le vrai du faux et surtout de vous apporter des pistes vis-à-vis de cette valeur Apple qui aujourd'hui du coup recule alors que Wall Street est en hausse. Et puis Xi Jinping, lui, le président chinois, est à Paris. Quelle place pour la Chine dans les portefeuilles boursiers? On pose aussi cette question jusqu'à 18h à nos experts. On est à vos côtés. Bienvenue à tous, on joue dans votre camp.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Au cœur de cette séance, donc Aude Kersulek. Aude, c'est un début de semaine hors prometteur, on va peut-être pas s'emballer, mais en tout cas positif sur les marchés en Europe comme aux États-Unis.
Exactement, on monte à Wall Street, on monte en Europe. Alors en Europe, tous les marchés ne sont pas ouverts. Il faut quand même dire que à Londres, c'est jour férié et ça nous limite un peu notre volume sur le marché parisien aussi parce qu'on est lundi, donc c'est généralement assez faible. En plus, on a une semaine où il y a beaucoup, beaucoup de ponts, donc il y a peut-être des opérateurs absents. Seulement 850 millions d'euros échangés jusqu'à présent sur le CAC. La plus forte hausse, c'est Téléperformance. On en parlait, plus 5,5% aujourd'hui. Sur le reste de l'année, depuis le début de l'année, c'est quand même moins 25%. Téléperformance qui devance AXA ou encore Thales. Et puis du côté du rouge, on avait Société Générale ce matin qui finalement se reprend un petit peu. On ne perd plus que 0,3%. On avait quand même passé une très mauvaise journée vendredi après le résultat trimestriel et le conference call avec la directrice financière qui ne s'était pas très bien passée parce qu'elle n'avait pas donné des très belles perspectives sur la marge nette d'intérêt d'ici la fin de l'année. En tout cas, la plus forte hausse du CAC pour le moment, c'est Edenred, moins 1,1%. Donc les replis sont assez limités pour le moment.
Bertrand Lamiel est avec nous. Bertrand, bonjour, depuis au bureau de Ports en Part. On est ravis de vous retrouver, Bertrand. Avant une nouvelle semaine de publication, alors elles seront un peu moins nombreuses cette semaine, les publications. Est-ce qu'on a le droit d'être optimiste, par exemple, sur la publication d'Alstom prévue mercredi? C'est vrai que les mal-aimés du marché, là, ont plutôt enthousiasmé les investisseurs sur leur publication. Ça a été le cas la semaine dernière de Worldline, ça a été le cas aussi de Téléperformance, aujourd'hui en tête du CAC. Est-ce qu'on peut se dire, donc, qu'Alstom, un autre mal-aimé du marché, pourrait, sur sa publication, pourquoi pas progresser également?
Pourquoi pas, enfin en tous les cas c'est tout ce qu'on souhaite aux actionnaires d'Alstom. On est véritablement sur une zone critique. Là où on a un peu plus d'inquiétude qui fait qu'on reste à l'écart de ce type de valeur, c'est que finalement on est assez peu de temps après le profit warning d'octobre. Et donc en termes industriels, il faudra probablement plus de temps à Alstom pour pouvoir résoudre ces problèmes et revenir avec des meilleures nouvelles, le chemin de la croissance. Les investisseurs vont probablement attendre des nouvelles concernant de nouvelles sessions. On se rappelle qu'il y en avait une il y a trois semaines et ça va permettre aussi d'affiner un petit peu le tir sur l'augmentation de capital qui est nécessaire. Donc voilà, en fonction des réponses apportées, on pourrait effectivement avoir quelque chose d'un peu mieux sur Alstom, mais franchement, nous, on va préférer aller sur d'autres dossiers plutôt que d'aller, on va dire, tenter le diable sur une valeur comme Alstom.
Bon, au moins, c'est dit. Une autre valeur dans l'actualité aujourd'hui, alors c'est Apple, pour le coup. Apple qui recule un peu à Wall Street, alors que Wall Street est en hausse. Berkshire Hathaway qui a quand même assez nettement allégé sa position sur Apple. Est-ce qu'il faut suivre Berkshire Hathaway vis-à-vis de ce titre Apple et, alléger?
Alors, je ne sais pas ce qui a prévalu pour la décision. Bon, ça reste quand même la première position. On restera avec à peu près 50% de sauf erreur de Berkshire Hathaway sur Apple. Donc, ça reste quand même une grosse position. Bon, nous, ce qu'on voit quand on regarde Apple, qui fait qu'on est neutre, quand on la compare à des Amazon, des Microsoft, des Google ou des Meta, ces dossiers-là vont rester avec des croissances de chiffre d'affaires supérieures à 10%, là où Apple va probablement plutôt être du côté des 6-7% avec une grosse dépendance encore à l'iPhone et donc des incertitudes avec notamment la Chine. Alors, du côté des bonnes nouvelles, le rachat d'actions, 110 milliards, bon, ça fait qu'Apple est le premier acheteur de ces actions et même le premier acheteur au monde. On estime qu'on sera un peu plus de 1000 milliards de rachat d'actions. Pour à peu près 10%, ce sera Apple qui rachètera ses actions. Et au niveau des investissements, on aura 30 milliards quand même investis, notamment sur le sujet intelligence artificielle. Bon, donc ça reste bien, mais il faut voir que le Meta va mettre beaucoup plus d'argent sur la table. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en fait, Apple n'est pas la seule boîte au monde, donc un peu moins de croissance, des investissements un peu plus faibles. Ça peut expliquer qu'on peut trouver mieux en allant se positionner. J'y resterai le débat au 7 magnifique, hein, mais évidemment sur Nvidia. Mais Amazon, Google, Meta, Microsoft me paraissent un peu mieux. Et demain, Apple plateforme en fait plafonne depuis 2021.
Effectivement, et demain Apple doit annoncer un certain nombre d'innovations sur ses produits. Ce sera une journée importante demain pour Apple. Et quant à Berkshire Hathaway, en allégeant son exposition à Apple, ils augmentent. Chez Berkshire, la holding de Warren Buffett, ils augmentent leur liquidité, leur montagne de liquidité qui atteint un record d'altitude, cette montagne de liquidité chez Berkshire Hathaway, au point que Berkshire pourrait à lui seul racheter en cash, par exemple, l'ensemble de McDonald's ou encore de Disney. On en parlait, de cette stratégie de monter en puissance, monter en volume des liquidités chez Berkshire Hathaway. Qu'est-ce que cela dit de la vision de Berkshire et de Warren Buffett sur l'état global du marché? On en parlait avec John Plassard, c'était à 15h30 dans USA Today. Si vous avez raté le direct, vous tous qui nous suivez, eh bien le replay est disponible sur notre application BFM Business. Vous allez dans le BFM Bourse, dans la rubrique replay. C'est extrêmement simple. C'était au cœur donc de USA Today. Bertrand, vous restez avec nous. On va aussi parler de la visite de Xi Jinping en France dans un instant ensemble. Mais d'abord, Aude nous rappelle 16h12 depuis la tour Euronext. Aude, autre valeur à ne pas rater parce qu'il y a du nouveau, effectivement, Atos qui tente toujours de se construire un avenir.
Et en tout cas, l'avenir, là, il est en baisse sur le SBF 120, puisque c'est la deuxième plus forte baisse de cet après-midi. Alors, ça s'était bien passé ce matin à l'ouverture pour le titre, et ça a vite dégringolé. Alors, effectivement, on a eu ce point de marché ce matin de la part de l'entreprise. 4 propositions reçues au terme du délai de vendredi soir. 3 retenues, et à celle de Bain Capital qui a été mise de côté. Les 3 autres sont celles des créanciers, les obligataires et les bancaires qui se sont mis d'accord. Et puis celle de David Layani pour Whitepoint et de Daniel Kretinsky. Et puis selon des informations que croient avoir les échos, c'est quand même celle de David Layani qui serait pour le moment la plus privilégiée par notamment les créanciers qui ont du coup un droit de décision parce qu'ils acceptent aussi de réduire la dette. Alors que celle de Daniel Kretinsky, donc l'homme d'affaires tchèque, serait un petit peu plus exigeante, notamment en termes de réduction. Réduction de dette, 4 milliards d'euros et puis une scission aussi dans les activités digitales, ce que ne privilégient pas les administrateurs qui rendront leur verdict le 31 mai. Donc il y a encore une grosse incertitude d'ici cette date pour les actionnaires d'Atos. En tout cas, on se dirige quand même vers une très forte dilution pour ce titre. Mmh. Atos, donc moins 2,8% derrière Eutelsat qui est bête aussi de 3,3% parce que là on confirme du côté de l'entreprise des rumeurs comme quoi Eutelsat serait en train d'analyser les partenariats, les possibilités avec des infrastructures dans le réseau terrestre. Et là, ça ne plaît pas forcément finalement aux investisseurs. Et puis à noter, alors que là, c'est la bourse de Milan, mais on a eu information que l'OPA de Elkatertone sur TOTS, le chausseur italien, avait déjà réuni 90% des titres. Donc l'OPA se termine le 8 mai, mais bon, vraisemblablement, ce sont évidemment les derniers jours de côté. cotation pour TOTS à la Bourse de Milan. Le titre vaut autour de 43 euros. Évidemment, il ne bouge pas depuis quelques semaines.
Elle nous accompagne depuis la Tour Euronext tout au long de cet après-midi. Merci Aude. N'hésitez pas à nous rappeler à pirater l'antenne si besoin en fonction des évolutions de cette séance. Et lui est en ce moment au cœur de Paris. Le président chinois Xi Jinping en visite d'État de 48 heures en France. Aujourd'hui à Paris, puis demain il fera une visite des Hautes-Pyrénées, la station de la Mongie avec Emmanuel Macron. Xi Jinping à Paris, c'est l'objet de notre question du jour sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à notre fil X et notre fil LinkedIn BFM Bourse. Quel secteur, selon vous, quel secteur va réussir à refaire de la Chine un levier pour son avenir et sa croissance en bourse? Est-ce que ce sera le secteur des spiritueux? Est-ce que ce sera le secteur du luxe? Autre option qu'on vous propose, le secteur de l'aéronautique ou encore celui du tourisme. Et vous êtes assez nombreux aujourd'hui à voter. Alors, cette question, Bertrand, puisque vous êtes toujours avec nous depuis Ports en Part, on vous la soumet aussi. Quel secteur va réussir à refaire de la Chine un levier pour la suite, d'après vous? Bertrand, êtes-vous là? Si vous êtes là, vous êtes muet et on vous a perdu manifestement. Bon, c'est pas grave, on parlera de la Chine dans un instant, on va appeler Florian Yelpo. Cette question qu'on vous pose sur les réseaux, on l'a fait vivre en continu sur l'antenne et voilà, Florian sera avec nous dans une poignée de secondes pour effectivement comprendre les enjeux de cette visite de Xi Jinping, le président chinois à Paris. Et ce soir, dîner d'État prévu entre Xi Jinping, son épouse, bien sûr Emmanuel Macron et son épouse également, ce sera à l'Élysée. Marc Giraud est avec nous, cofondateur de HMG Finance. Bonjour Marc, une idée de valeur en plus.
Bonjour Guillaume.
Pour ceux qui veulent compléter leur portefeuille, on est ravis de vous retrouver. C'est sur Groupe Partouche que vous êtes aujourd'hui positif, Marc.
Oui, en effet. Alors, ça n'a rien à voir avec la visite de Xi Jinping en France, dont vous parliez à l'instant, bien que les Chinois soient, comme vous le savez, des joueurs invétérés. C'est au moins leur réputation. Groupe Partouche, c'est un important opérateur français de casinos. Ils ont un total de 41 casinos, dont 38 en France. Des casinos comme Divonne-les-Bains, par exemple, favori des joueurs suisses, qui va rouvrir cet automne après de gros travaux. Des curiosités comme le casino en plein air de la Ciotat ou le Touquet, par exemple, ou encore La Roche-Posay dans la Vienne, un endroit très sympathique, je dois dire. Ils exploitent aussi des hôtels, diverses activités de diversification, mais ce qui fait vraiment le chiffre d'affaires de Partouche, c'est 4899 machines à sous, c'est précis, sans compter les tables de jeu. Les tables de jeu, c'est l'activité historique, c'est aujourd'hui moins important, les machines à sous ont vraiment pris le dessus en termes de chiffre d'affaires. Le dernier exercice de Partouche, qui est un exercice à cheval, qui clôture à fin octobre 2023, le dernier, c'était le premier exercice vraiment normal depuis le Covid.
Et du coup, Groupe Partouche, qui vous plaît et vous séduit, on rappelle, vous êtes à l'achat, et qui publie ses résultats aussi. Que nous enseigne le dernier exercice? Et puis dans un instant, Marc, je vous demanderai aussi votre objectif de cours. Mais quelle leçon tirez-vous du dernier exercice et de la publication?
La première leçon, c'est que vraiment la situation opérationnelle et financière de Partouche est rétablie. Mais j'observe tout de même que le cours de bourse n'en tient pas vraiment compte. Le cours actuel ne représente que 7 fois le dernier résultat d'exploitation et à peine plus de la moitié de l'actif net par action. Ça me semble vraiment pas cher, avec des perspectives qui sont pourtant assez favorables. La France est plus que jamais une destination touristique qui est très prisée sur le plan mondial et les Jeux Olympiques vont attirer beaucoup de monde sur notre sol. Quant au changement climatique qui inquiète beaucoup de monde, si l'été est chaud, les vacanciers vont être contents de se réfugier dans les salles climatisées des casinos. Et si l'été est pluvieux, même chose, les vacanciers voudront se mettre à l'abri.
Oui, à l'abri en tout cas de la pluie, mais pas de possible perte. Un groupe Partouche, on est dans l'univers des casinos évidemment. Et on rappelle souvent, on aime à le faire ici dans BFM Bourse, Marc, la bourse, plus on y reste longtemps, plus on risque de perdre son argent. Alors qu'en bourse, au contraire, le casino, donc plus on y reste longtemps, plus on risque de perdre. En revanche, en bourse, plus on reste et plus on lisse ses risques. Ça ne vous empêche pas d'être optimiste sur le potentiel de groupe Partouche en bourse. Quel est votre objectif de cours, Marc?
Bon, j'espère un retour vers 10 fois le résultat d'exploitation. Ça ferait à peu près 28 euros. Ça me semble à moyen terme tout à fait envisageable.
Et ben voilà, c'est dit, objectif 28 euros. Marc Giraud et ses équipes talentueuses chez HMG Gestion. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir accompagnés. Valeur ajoutée, des idées chaque jour vers 16h15 pour vous aider à compléter ou diversifier vos portefeuilles boursiers. Alors on le disait, oui, la bourse c'est bien, mais quand même, la concurrence de beaucoup d'autres placements, par exemple l'obligataire, on voit à nouveau se multiplier les fonds à échéance, oui, une deuxième vague de fonds à échéance là qui est arrivée récemment sur le marché, puis toujours le private equity aussi qui vient racheter un certain nombre de petites valeurs, et
c'est pas fini. C'est ce que nous disait Hortense Lacroix dans la Bourse Cash. C'était peut-être à 15h40. Si vous avez raté le direct, elle nous a apporté force argument pour nous expliquer effectivement que le private equity allait continuer de faire ses courses sur les marchés cotés. Si vous avez raté le direct, replay sur notre site BFM Bourse.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Et donc notre fil rouge, c'est le cas de le dire, autour de Xi Jinping, qui est en visite en France aujourd'hui, le président chinois. Il est avec Emmanuel Macron en ce moment même. Ils étaient aux Invalides il y a quelques minutes encore, avant ce soir un dîner d'État à l'Élysée. Florian Hielpeau est avec nous. Bonjour Florian, depuis les bureaux de Lombard-Odier IM. Alors Xi Jinping à Paris pour 48 heures, en France pour 48 heures. On sait que l'économie allemande dépend pas mal de la dynamique chinoise. À quel point est-ce le cas aussi pour la France, le PIB français, à quel point dépend-il de la dynamique de la Chine ?
Écoutez Guillaume, il y a différentes façons d'appréhender le problème. Il y a une méthode directe où on peut regarder à quel point la France exporte des produits vers la Chine. La France exporte à peu près 1% de la valeur de son PIB vers la Chine. Est-ce que c'est significatif ? Ben, si on compare ça à ce que la France exporte vers le reste de l'Europe, c'est 10% de son PIB. Donc la Chine n'est pas le premier partenaire commercial de la France. Très clairement, c'est le septième. Si on décompose l'Europe en différents sous-pays, le quatrième si on traite l'Europe en tant que telle. Ça, c'est l'effet direct. Mais il y a également un effet indirect, parce que le premier partenaire commercial de la France, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne est très exposée à la Chine. L'Allemagne exporte 2,5% de son PIB en Chine. C'est une grousse somme d'argent, et lorsque la Chine tousse, l'Allemagne s'enrhume, et nous ne sommes, et la France n'est pas très loin, justement, de ce partenaire commercial qu'est l'Allemagne.
Et du coup, comment est-ce que vous voyez la relation commerciale ? Comment est-ce que vous voyez la concurrence chinoise, par exemple, sur les véhicules électriques, le solaire, etc., les aides chinoises, hein, un certain nombre de secteurs, ce qui donc biaise ce rapport commercial. Tout à l'heure, Emmanuel Macron a dit, en entamant sa discussion, son échange avec Xi Jinping, il lui a dit « nous devons bâtir une relation commerciale équitable ». C'est le terme qu'a choisi Emmanuel Macron. Est-ce qu'à vos yeux, c'est la Chine qui faute en truquant le marché, ou c'est l'Europe qui se tire une balle dans le pied aussi en réglementant trop un certain nombre de secteurs ?
Je vous donne la réponse suisse, c'est-à-dire un petit peu des deux. Il faut comprendre que chacun de ses partenaires a son propre agenda. L'agenda chinois, quel est-il ? Ben, c'est essentiellement l'écoulement d'une production excédentaire de véhicules électriques. Vous le savez, la Chine est le premier producteur de véhicules électriques au monde. Il y a une surcapacité de ce côté-là. La Chine doit trouver un relais pour pouvoir exporter ses véhicules dans le reste du monde. Côté américain, c'est un petit peu compliqué, un petit peu tendu ces temps, et ça risque même de s'accélérer en novembre. Il reste l'Europe, et il faut trouver un terrain d'entente avec l'Europe. Côté européen, on a également des sujets à discuter avec la Chine. On va parler agriculture, on va parler luxe notamment, et ça c'est principalement du côté français. On doit trouver également un terrain d'entente de ce côté-là. Maintenant, l'Europe doit aussi s'armer face à la concurrence chinoise pour le plus long terme, c'est-à-dire en essayant de peut-être passer moins de temps à réglementer qu'à définir des programmes d'investissement, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis. Encore une fois, c'est une question d'équilibre.
On a vu des petits signes d'embellie sur l'économie chinoise ces dernières semaines. Pour vous, c'est le début d'une vraie réaccélération ou juste des effets de base plus favorables ?
Alors, on revient sur la problématique du début de notre discussion, c'est-à-dire que il y a des effets joints entre les différents pays. La Chine, ça s'améliore, c'est clair. La demande intérieure s'est améliorée, c'est clair. Maintenant, la Chine est très exposée à la demande américaine, et celle-ci, en ce moment, donne des signes d'affaiblissement. Et on commence à lire cet affaiblissement dans les statistiques chinoises. Une statistique simple, jusqu'à avril, on avait 60% des données chinoises qui s'amélioraient. Aujourd'hui, on est tombé à 40%. Donc, il y a des signes d'un ralentissement, mais qui n'est pas un ralentissement qui vient de l'intérieur du pays, qui vient de l'extérieur de la Chine.
Et le vieillissement démographique, alors ça c'est un autre point commun entre l'Europe, les États-Unis et la Chine, parce que la Chine vieillit elle aussi énormément. Est-ce que pour les Chinois c'est même un défi encore plus grand qu'ici en Occident ?
Alors, c'est un défi d'autant plus grand qu'il a déjà commencé, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que la population chinoise recule, ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. À long terme, la croissance d'un pays, c'est quoi ? C'est la croissance de sa population, la croissance de son investissement et sa productivité. L'Europe peut encore s'appuyer sur l'immigration, devrait lancer des plans d'investissement et sur sa productivité. Côté chinois, il faut trouver un relais. Ce n'est plus la demande interne qui va pouvoir soutenir la croissance chinoise à long terme. Il faut trouver une autre source de démographie, et elle se situe à l'extérieur du pays. Encore une fois, quelque part, la Chine a davantage d'intérêt à former des relations de long terme avec l'Europe que l'Europe n'en a avec la Chine. C'est un point qui est particulièrement important. Il y a une asymétrie, si vous voulez, dans cette relation-là qu'il faut mentionner, qui est une asymétrie structurelle.
Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Florian Hielpeau, depuis les bureaux de Lombard-Odier IM. Le CAC 40 est toujours en hausse dans de faibles volumes. On vous rappelle que la Bourse de Londres est fermée aujourd'hui. Le CAC gagne 0,5%, puis un titre qu'on va particulièrement suivre jusqu'à la défaite du Borussia Dortmund a prévu demain soir contre le PSG. Le titre Borussia Dortmund, il est encore en hausse. Le marché semble parier les investisseurs sur une nouvelle victoire face au PSG, donc une qualification en finale du Borussia Dortmund de la Ligue des Champions. Le marché se trompe, mais enfin voilà, il gagne ce titre quand même 2,5% en ce moment, effectivement, sur le marché à Francfort à 3,93 €. Il avait déjà bien progressé, ce titre Borussia Dortmund, la semaine dernière, au lendemain de la victoire au match aller contre le PSG. Voilà, mais malheureusement, il y aura un effet retour, bien sûr. Il y aura un effet boomerang. C'est quand le match est demain soir.
Donc, il y a un très beau short à faire.
C'est le cas de le dire, short, foot,
ouais.
Short.
Ouais, très bien.
Bon, vous l'avez reconnu, c'est Frédéric Rosier qui vient de nous rejoindre. On va tout de suite ouvrir notre portefeuille BFM Responsable, comme chaque lundi. C'est parti.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes en forme. Le roi des jeux de mots. Frédéric Rosier, gérant pour Mirabeau France, l'un des trois co-gérants de ce portefeuille BFM Responsable, un portefeuille d'une quinzaine de valeurs qu'on vous propose chaque lundi, qui a, sur la semaine écoulée d'ailleurs, surperformé. Mais avant d'en parler, un mot quand même à nouveau de cette controverse, la controverse du printemps, Total Energy, qui réfléchit pourquoi pas à faire de Wall Street sa place principale de cotation, parce que les Européens investissant de moins en moins au capital de Total Energy, les Américains y sont de plus en plus nombreux et influents. Et donc, un jour, pourquoi pas Wall Street comme place principale de cotation de Total. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur l'ESG? Bien sûr, tout le monde est pour la protection de l'environnement, mais est-ce que la finance durable peut se prétendre responsable si, en bout de chaîne, on perd notre souveraineté sur les entreprises stratégiques européennes, Frédéric?
C'est un peu le cas, déjà, puisque les plus gros investisseurs aujourd'hui sur Total, c'est majoritairement aujourd'hui des anglo-saxons. Donc, on a perdu cette capacité aussi d'influence, quelque part. Il y a aussi un combat de coq, honnêtement, depuis novembre dernier, vous savez, avec le label ISR et les déclarations de Monsieur le maire d'exclure l'ensemble du secteur pétrolier de l'investissement ISR. Donc, c'est vrai que c'est un peu la limite de l'exercice, c'est à quel point on peut, nous, être influents dans la façon de changer les choses et à quel point on peut diriger, driver les investissements des entreprises jusqu'à éventuellement aller jusqu'au bout, c'est-à-dire un repoussoir. Et une entreprise comme Total, c'est 200 millions d'euros d'impôts payés en France qui réfléchit à s'installer, en tout cas d'avoir une cotation aux États-Unis et pourquoi pas à terme effectivement délocaliser son siège social. On peut tout imaginer. Oui. Donc c'est un peu effectivement, on doit être suffisamment intelligent pour pouvoir dialoguer et de pas arriver jusqu'à ces extrêmes.
Bruno Le Maire dit vouloir se battre pour que la cotation principale reste à Paris. Sauf que le même Bruno Le Maire, Bercy en tout cas, a créé ce nouveau label ISR qui justement empêche les institutionnels d'investir dans Total Energy. Donc là, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, Bruno Le Maire.
Oui, et l'attractivité aujourd'hui de la bourse de New York en termes de valorisation aussi. On est en droit de se mettre à la place de l'investisseur anglo-saxon qui estime aujourd'hui qu'il y a une prime d'être coté aux États-Unis plutôt qu'en Europe. Et on voit honnêtement, Total est plutôt des côtés de cet aspect-là.
Oui, le ratio PE, ratio cours sur bénéfice.
Plus élevé aux États-Unis.
Oui. Deux fois plus élevé quasiment pour Chevron et Exxon que Total Energy. Bon, voilà, on en est là. Les questions autour de l'ESG, elles continuent de fleurir. On les aborde chaque jour. Mais notre portefeuille BFM Responsable, justement, se veut un portefeuille, certes ESG, vertueux, mais pragmatique. Et il se trouve que sur la semaine écoulée, je bafouille beaucoup aujourd'hui, on est lundi, ça m'arrive souvent. Le lundi, c'est pas mon jour. Sur la semaine écoulée, le portefeuille a plus progressé que le reste du marché. Ça fait du bien, Frédéric.
Oui, alors il y a une raison aussi à ce facteur, c'est l'absence de secteurs qui ont été très attaqués la semaine dernière. Je pense notamment au secteur automobile. On l'a vu notamment avec des titres comme Stellantis, mais pas seulement à travers l'Europe. Donc on a des baisses de quasiment une dizaine de pourcents. Donc c'est un secteur sur lequel nous sommes absents au moment où on se parle. Il y a eu aussi une petite pression sur le secteur financier. On a vu AXA, par exemple, dans le portefeuille souffrir un petit peu. Donc c'est un peu ces jeux de pondération d'indices aujourd'hui qui nous a été plutôt profitable avec des belles tenues. Hein, pour le coup, on a eu des belles publications. Saint-Gobain fait partie de ces belles publications au sein du portefeuille. Donc voilà, il a été plutôt robuste, mais c'est vrai qu'on avait un petit peu souffert en relatif ces dernières semaines.
Oui, effectivement, Saint-Gobain sur la semaine a gagné 3%, c'est bien. AXA, en revanche, c'est pas tous les jours. Hein. AXA était lanterne rouge du portefeuille à moins 7%.
Oui, vraiment, alors là, s'il y a bien... D'ailleurs, aujourd'hui, regardez la performance d'aujourd'hui, on est en train de reprendre une partie des pertes.
Plus de 2,5.
C'était... voilà, la publication était plutôt correcte, plutôt bonne. Après, il y a une cession d'actifs allemands, notamment discussion avec du private equity, etc., sur une cession d'une partie de portefeuille. Cette cession est remise en cause, donc là, c'est plus effectivement l'effet un peu mauvaise annonce de DAXA qui a pesé un peu sur le titre. Mais je pense que c'est plutôt l'objet d'une prise de bénéfice plutôt que d'un changement de point de vue qu'on pourrait avoir sur le titre.
Notre portefeuille sur la semaine écoulée donc a fait un peu mieux que le reste du marché, que l'Eurostox 50, moins 0,6%, ouais. alors que l'Eurostox a trois fois
c'est
plus.
C'est le différentiel qui est de quasiment 1% effectivement. Entre l'indice.
Et vous venez, Frédéric, nous annoncer une grande nouvelle aujourd'hui, un nouvel entrant au sein de ce portefeuille. Pour tous ceux qui nous suivent, c'est toujours un événement, effectivement.
Alors, Dr Copper, on est. Oui, c'est vrai. Ça fait quasiment un mois que je vous parle du cuivre et oui. D'ailleurs vos téléspectateurs ont été, à mon avis, ravis de nous suivre sur un titre comme Anglo-American au moment où j'ai présenté hors cadre de l'AG puisqu'ils ont pris 30% une journée, donc ils étaient plutôt heureux.
Avec une offre.
Donc on va surfer un peu sur cette vague-là en intégrant une société qui s'appelle Aurubis AG. Donc on est en Allemagne.
Aurubis.
On est en Allemagne, c'est aujourd'hui un leader européen dans le cuivre. Alors attention, pas n'importe quel cuivre, on est dans la sphère recyclage, une partie recyclage de cuivre. Donc là, on est vraiment dans l'intégration de l'ESG, mais pas seulement. C'est aussi une entreprise qui accompagne des grands producteurs de cuivre, notamment le chilien Codelco, dans la production un peu plus sobre de point de vue énergétique. Et aussi, cette entreprise a une capacité de produire sur des minerais un peu moins riches en teneur de cuivre. Donc on arrive à optimiser quelque part cette production. Alors là, c'est d'un premier aspect. Donc on est dans la partie recyclage. Deuxième aspect qui est très important dans le cadre de l'ESG, c'est une entreprise qui depuis 10 ans a réduit quasiment d'un tiers son émission de CO2, 36% sur les 10 dernières années. L'industrie en parallèle a fait moins 5 en émission de CO2. Donc on est dans une production qui est propre, elle est aussi aujourd'hui alimentée par sa propre source d'énergie à hauteur de 20%, donc c'est relativement important. Donc on est capable d'accompagner la transition énergétique, mais de manière durable. Ce qui n'était pas évident, puisque c'était une problématique qu'on a sur les panneaux solaires, savoir comment ils sont produits. C'est une problématique qu'on a sur le cuivre, savoir comment sont produits ces minerais. Et aujourd'hui, avec Aurubis, on a un acteur qui est présent dans le cuivre, une quinzaine d'autres métaux également, et également dans le recyclage de batteries. Et ça aussi, c'est important, avec l'envolée des véhicules électriques, c'est quid des batteries une fois qu'elles sont arrivées en fin de vie, et Aurubis est aujourd'hui sur ce marché.
C'est coté à Francfort, donc éligible au PEA en plus.
Tout à fait. Ouais. Alors, et d'un point de vue de timing, vous avez suivi nos discussions. Hein. On a hésité la semaine dernière, puis on s'est dit on va pas le faire, ou si on le fait, on prévient les téléspectateurs de ne pas la rentrer maintenant. On a bien fait, UBS a dégradé le titre. Pourquoi ? Parce que UBS estime qu'il y a une pression notamment sur le tarif du cuivre, et qui pourrait peser éventuellement sur les marges. Et aussi sur l'augmentation des CAPEX, c'est-à-dire des investissements nécessaires pour Aurubis pour accompagner sa croissance future. Et donc le titre a perdu 11% la semaine dernière.
Ah, vous profitez du coup.
Et donc là, on rentre après une sanction de quasiment 11% sur le titre. Donc là, le timing est plutôt. Bon, attention, publication 8. Donc on va surveiller quand même cette publication de près.
Quelle bande d'opportunistes alors, les trois co-gérants de ce portefeuille BFM responsable, on profite d'un creux sur Aurubis. Exactement. Pour l'intérêt, parce que c'est vrai que ça faisait 2-3 semaines que vous mijotiez autour de ce titre, on en parlait.
On a vu le truc et on s'est dit on va attendre.
On va peut-être l'intégrer, mais on attend. Voilà, ça y est, c'est le moment, vous avez trouvé le timing. Merci beaucoup Frédéric Rosier, l'un des trois co-gérants, et vous représentez, vous incarnez ici Mirabeau France, et vous co-gérez ce portefeuille BFM responsable avec Guillaume Chaloin de l'UBACAM et Stanislas de Bayoncourt pour Sycomore Asset Management. Bon retour Frédéric.
Merci.
Le CAC 40 toujours proche des 8000, 7992 points en ce moment. On en reparle dans un instant. La famille BFM Bourse va se réunir jusqu'à 17h. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Et la famille qui se réunit chaque jour jusqu'à 17h. Les équipes radio, télé de BFM Bourse et les équipes web. Sabrina Sabgui nous accompagne. Bonjour Sabrina.
Bonjour Guillaume.
Bonne fête, c'est la Saint-Prudence aujourd'hui.
Merci. Bonne fête également.
Voilà. Je suis toujours... Prudence, mère de sûreté. Est-ce qu'on peut investir en bourse et être prudent dans la vie? Mais bien sûr, quand on a du temps devant soi, la bourse, effectivement, dans la durée, on parvient à toujours, en tout cas le plus souvent possible, limiter, lisser ses risques. Effectivement, oui, on peut investir en bourse prudemment et on en parle régulièrement avec nos experts. On peut aussi le faire de façon beaucoup plus opportuniste et offensive. Il y a des moyens de le faire et pour cela, l'analyse technique est toujours très utile. Dans un instant, on appellera notre analyste technique Gilles Santacreux. D'abord, ce début de semaine, il se passe bien, Sabrina. Plus 0,4% la Bourse de Paris.
Il se passe bien après avoir perdu 1,6 la semaine dernière. Le CAC se remobilise. Mais quand même, la hausse est un peu plus limitée qu'en début d'après-midi. On avait gagné presque 1%. On était même sur les 8000 points. Après des statistiques en zone euro très rassurantes, dont les prix à la production qui ont diminué de 0,4% sur le mois de mars. Hein, ce qui étaye aussi les arguments pour une première baisse des taux, peut-être d'ici juin. En tout cas, Philippe Lane, le chef économiste de la BCE, a indiqué à un journal économique espagnol que les arguments en faveur d'une baisse des taux directeurs s'étaient renforcés.
Effectivement, c'est bon ça.
C'est super.
Donc, c'est bon, effectivement, le 10 ans français se détend un petit peu. Et de 95, on est vraiment repassé sous les 3%. On était à 3, un peu plus de 3 avant l'annonce des agences de notation. Là, on est à 2,95 sur le 10 ans français. Le 10 ans allemand aussi qui se détend un tout petit peu. Gilles Santacreux avec nous, donc comme promis, depuis les bureaux de boursicoté.com. Bonjour Gilles, on est ravis de vous retrouver. Alors les volumes sont faibles.
Bonjour.
On ne va pas s'emballer sur la hausse du jour. Les volumes sont faibles, d'autant que la Bourse de Londres est fermée. Néanmoins, d'un point de vue technique, quel signal cette séance envoie-t-elle, d'après vous?
C'est pas énorme, hein. On a eu une zone de volatilité assez importante entre 14h30 et 16h grossièrement, où on est venu donc justement casser cette zone des 8000 points et puis tout ça est redescendu comme un soufflet. Le signal technique, c'est le signal d'un rebond, mais qui ne parvient pas encore à enrayer le mouvement de baisse qui a été impulsé donc la semaine dernière. Et on reste sous une zone, alors qui est une zone médiane d'un range un peu plus moyen terme à 8024 points. Cette zone, elle a agi comme résistance aujourd'hui. On a des indicateurs techniques aussi sur cette zone, qui nous montrent que tant que l'on ne parvient pas à la dépasser, on restera dans une dynamique plutôt baissière. Par contre, on a préservé, et ce dès l'ouverture, une autre zone technique qui était remarquable, c'est la zone des 7975 points. Cette zone, elle était un petit peu enfoncée, mais pour l'instant, elle reste support et elle nous sort d'une zone un peu plus dangereuse, où on risquait, tant que l'on était en dessous, de connaître une accélération baissière. Donc effectivement c'est rassurant, mais comme vous l'avez dit, il y a peu de volume. On l'a vu, la zone des 8000 points reste encore une zone de résistance, donc clairement on remonte tout doucement, mais pas encore de quoi sortir d'une phase d'inquiétude technique au niveau de l'indice parisien. On reste donc vigilant.
Du côté des valeurs comme ça, est-ce qu'il y en a une dont vous vous dites, celle-là techniquement là, elle envoie des signaux dont je dois faire part absolument aux auditeurs et téléspectateurs de BFM Business?
Alors j'en ai deux. Bon, je vais commencer par une qui est Nexity. Nexity qui a beaucoup souffert, puisqu'on a eu un gap le 29 février qui a inscrit un très gros trou de cotation. Et ce gap, il agissait comme résistance depuis et on ne parvenait pas à le repasser. Et là, depuis vendredi, on commence à tenter un comblement de ce gap. Alors ça ne veut pas dire qu'on va rebondir et qu'on va repartir faire un mouvement haussier fort. Mais le fait que suite à ce gros signal baissier qui était donc le gap, le fait de s'être stabilisé et de commencer à vouloir revenir dessus et à le combler, donc on surveillera la zone des 10,93 €, c'est le début de comblement de ce gap. Et aujourd'hui, on a ouvert avec un gap haussier donc par rapport à la séance de vendredi. Certes, on est revenu combler, mais on commence à avoir, des petits signaux d'une dynamique haussière court terme qui pourrait justement combler cette zone et nous envoyer des signaux de retournement sur une vue un peu plus moyen terme. Donc ce n'est pas encore fait, mais c'est un titre qu'il faut commencer à surveiller en vue d'un scénario recovery, quoi.
Merci Gilles. Gilles Santacreux depuis les bureaux de Boursicoté. On vous retrouvera à la clôture des marchés, ce sera à 17h35. On aura quelques publications à suivre cette semaine. Alors à Paris, on va en parler tout à l'heure, des publications à venir à Paris, puis aussi au Japon, demain, Nintendo annoncera ses résultats. Ce sera demain matin. Dans le pétrole, on suivra BP, puis Disney à Wall Street. Demain, Disney, puis mercredi, Airbnb ou encore Beyond Meat. Beyond Meat, Sabrina, c'est de la viande à base d'insectes ou c'est... Non, c'est pas des insectes.
Non, c'est végétal.
Ah, c'est végétal, oui.
Faut pas dire steak, mais c'est des produits végétaux.
Ah, effectivement. Ce sera mercredi, donc, cette publication. En attendant, on vous interroge sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez vous y abonner. Il est 16h37. Parce qu'effectivement, chaque jour, on vous pose cette question sur notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. Cette question aujourd'hui consacrée à Xi Jinping. Il est en visite ici à Paris, Xi Jinping. Il était il y a quelques minutes d'ailleurs aux Invalides avec le président de la République. Ce soir, dîner d'État à l'Élysée, auquel vous êtes d'ailleurs convié, Sabrina.
Bien sûr. Vous aussi, Guillaume.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
On y sera. Quel secteur, question du jour, va, à vos yeux, refaire de la Chine un levier ? Est-ce que ce sera le secteur en bourse, des spiritueux ? Est-ce que ce sera le luxe ? Pourquoi pas l'aéronautique ou encore le tourisme ? Ces quatre options qu'on vous propose, et vous avez été nombreux à répondre, dans un instant, on rebondira sur nos auditeurs les réponses. Pas sur vous, on rebondira pas sur vous.
C'est cruel.
Non, voilà, ça c'est un peu dur. Mais sur vos réponses, bien sûr, ce sera dans un instant. Vous, Sabrina, vous diriez que ouais, l'un de ces secteurs pourrait effectivement réaccélérer grâce à la Chine, refaire de la Chine un levier pour la suite, le tourisme, l'aéronautique, le luxe, les spiritueux.
Alors je pense que le luxe va arriver en tête de ce questionnaire, mais moi je vais dire les spiritueux, parce que quand même la Chine c'est un marché clé pour des entreprises telles que Pernod Ricard ou Rémy Cointreau. D'ailleurs, Pernod Ricard a vu ses ventes baisser de 10% d'années comparables au troisième trimestre en Chine. Rémy Cointreau aussi éprouve quelques difficultés, qui est quand même, la Chine c'est un marché clé pour son cognac Rémy Martin. D'ailleurs, le groupe avait abaissé ses perspectives en octobre liées à ses difficultés en Chine.
Une enquête anti-dumping qui fait très mal.
C'était en janvier dernier et c'était en réponse à une enquête sur les véhicules électriques en Chine, chinoise. Donc, je dirais spiritueux.
Donc, pour vous, peut-être un potentiel de rebond à venir sur les spiritueux.
Aïe, aïe, aïe.
On imagine que cette enquête anti-dumping ouverte par la Chine contre Pernod Ricard et Rémy Cointreau, elle a été au cœur des discussions d'ailleurs entre les deux présidents aujourd'hui, Emmanuel Macron et Xi Jinping. Nos auditeurs et téléspectateurs, pourquoi ont-ils voté ? Pour quel secteur ?
Oh, le luxe. Ouais. C'est fou.
C'est le luxe à 41%. Vous avez voté donc majoritairement pour le secteur du luxe. À vos yeux, celui qui devrait parvenir le plus facilement à refaire de la Chine un levier. 41% d'entre vous, donc le luxe. Et à 22% seulement, vous avez voté comme Sabrina sur les spiritueux. Le tourisme et l'aéronautique arrivent assez loin derrière.
On ne voulait pas dire le luxe parce que je savais que ça allait être en tête.
Ah oui, d'accord.
Voilà, j'ai voulu proposer les spiritueux.
On n'a même pas proposé l'option du secteur automobile parce que là, on sait que pour le coup, le secteur automobile, la Chine, là, c'est un vrai problème pour le secteur automobile. Les constructeurs chinois qui viennent disrupter nos constructeurs, c'est vraiment le loup dans la bergerie. Voilà, n'hésitez pas à continuer de voter et nous laisser vos arguments aussi en commentaire. On rebondira dessus tout à l'heure, encore dans la suite de l'émission, dans le club qui s'ouvrira à partir de 17h. Et puis on évoquait tous ces enjeux macroéconomiques autour de la visite de Xi Jinping à Paris. C'était dans l'Écho du Monde à 16h10 avec Florian Hielpo. C'était très intéressant d'ailleurs pour Lombard-Odier IM. Il nous disait d'ailleurs à quel point la démographie pour la Chine devient un enjeu vital. Et donc, Florian Hielpo, l'Écho du Monde, à retrouver en replay, si vous avez raté le direct, sur notre application BFM Business. Vous allez dans BFM Bourse et vous retrouvez l'ensemble de nos replays. Sabrina,
oui.
Une valeur qui aujourd'hui cartonne, alors que le CAC gagne timidement 0,5% dans de faibles volumes en plus. Ce titre, il gagne lui 10%, le titre Carmat. Que se passe-t-il aujourd'hui sur Carmat?
Il avait même gagné près de 20% aussi au plus haut. Alors Carmat a annoncé plusieurs nouvelles encourageantes. Déjà, il a fait le point d'étape sur son étude clinique efficace. Efficace, donc, c'est l'objectif premier de cette étude consiste à ce que la personne transplantée, puisque Carmat, c'est le concepteur d'un cœur artificiel, survive au moins 6 mois avec son cœur artificiel. Carmat a déclaré avoir implanté son cœur artificiel chez 20 patients, dont 9 depuis le début de l'année. Le groupe confirme son objectif de 52 implantations au premier semestre de l'année 2025. D'ailleurs, Carmat a fait part de résultats intermédiaires meilleurs qu'attendus, alors que le groupe dit traiter des patients de plus en plus malades. Alors ces résultats sont très très importants pour Carmat, puisque la société compte obtenir le remboursement de son cœur artificiel en France et vise une autorisation de commercialisation aux États-Unis en 2027.
Ah, vous imaginez si le cœur était remboursé, incroyable. Carmat qui donc confirme son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de cette année, c'est aussi ça que salue le marché.
Exactement, Carmat a profité de cette communication pour rééditer et renouveler sa cible de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024. La société confiante dans cet objectif avec les récentes implantations. Et aussi, Carmat a indiqué que 39 hôpitaux sont formés à des implantations commerciales.
Bon, tout n'est pas rose, loin de là. Le titre a énormément souffert ces derniers mois. Il reste beaucoup d'incertitudes médicales, mais il n'empêche, les signaux du jour sont bien accueillis. Le groupe a également envoyé un signal positif quant à son financement.
Et oui, parce que Carmat, hein, ce manque d'air financier, hein, et a indiqué que plusieurs actionnaires de référence comptent le soutenir financièrement. C'est d'ailleurs l'autre bonne nouvelle de cette annonce, hein, puisque Carmat va être à court de cash d'ici à la fin du mois de mai. Et surtout, le groupe avait estimé à 45 millions d'euros ses besoins en financement sur les 12 prochains mois. Donc l'annonce quand même d'un soutien financier est très très appréciable pour Carmat.
Carmat gagne en ce moment 11%, c'est un petit retour d'un mal-aimé, hein, ces derniers
aussi.
Mois. C'était, voilà, ces derniers
c'est
mois,
assez compliqué. Ouais.
Effectivement, et on en voit beaucoup les retours de mal-aimé là, sur le marché. On avait eu la semaine dernière la publication de Téléperformance qui avait été applaudie par le marché. Oui. Bah, ça continue aujourd'hui, Téléperf gagne 5,5%. Voilà, le retour d'un mal-aimé, Téléperformance. Un autre mal-aimé qui revient
Worldline,
effectivement. Après sa publication, le titre avait été salué. Voilà. Et peut-être à venir le retour d'un autre mal-aimé cette semaine, Alstom. On verra. Alstom annoncera ses résultats mercredi matin.
Rendez-vous pris.
Voilà, rendez-vous pris. Est-ce qu'Alstom va s'ajouter à cette liste des mal-aimés qui font leur retour, la positive, sur le marché? Ben, on l'espère en tout cas pour les actionnaires d'Alstom. En attendant, il est 16h45. Voici venue l'heure du bullshitomètre. Chaque jour, un expert de marché vient déconstruire une idée reçue, des effets de mode peut-être parfois un peu trop faciles à ses yeux. Aujourd'hui, Céline Picmal-Prade nous rejoint, la présidente de Picmal-Houghton Investment. Bonjour Céline.
Bonjour Guillaume.
L'or progresse de 13% cette année, le cuivre de 17%. Mais les plus grandes entreprises minières mondiales comme Newmont ou Barrick sont toujours en baisse là, cette année. Les minières en bourse, c'est donc foutu. Ah, ce discours, on l'entend beaucoup, mais vous n'êtes pas d'accord, vous dites même « bullshit ». Vous foudroyez. Cette idée que les mines en bourse resteraient plombées durablement. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée. Il va falloir nous expliquer pourquoi.
Tout à fait, je ne suis pas d'accord. Vous parliez tout à l'heure des mal-aimés. Et effectivement, ces sociétés minières sont mal-aimées aujourd'hui. Mais je pense que dans notre métier, il faut suivre l'adage « follow the money ». Et ce qui est très intéressant pour ces sociétés minières, c'est qu'elles devraient publier d'excellents résultats, selon moi, au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, on a eu un poids très fort qui est venu du fait que les coûts avaient progressé pour les entreprises minières, les coûts énergétiques, les coûts salariaux. Et donc, effectivement, on avait une pression sur les bénéfices qui venaient de cette augmentation des coûts. Aujourd'hui, lorsqu'on écoute les publications de résultats, ces entreprises minières qui ont parlé au cours des dernières semaines nous ont toutes dit bah, « Écoutez, du côté des coûts, ça va mieux. La pression sur les salaires, elle est maîtrisée et on a réussi à mieux maîtriser nos coûts en mettant en place une automatisation, des sources d'amélioration de notre productivité. » Donc les coûts mieux maîtrisés et de l'autre côté, bah, on a vu quand même la progression des cours de bourse dont on parlait tout à l'heure, le cours de l'or, le cours du cuivre. Et quand on regarde en comparaison par rapport au trimestre, deuxième trimestre de l'année dernière, par exemple pour l'or, le cours de l'or a fait plus $260 entre le deuxième trimestre 2023 et aujourd'hui le deuxième trimestre 2024.
Mais les minières...
Donc on devrait avoir effectivement un effet ciseau très favorable et des publications de résultats qui devraient être, à mon sens, exceptionnelles pour cet été, pour ces minières.
Tout ce, voilà. tout ce que vous voulez. Vous venez plaider ici le potentiel des valeurs minières en bourse. Alors dans ce cas, on vous demandera tout à l'heure quelles valeurs minières il faut privilégier. Mais tout ce que vous voulez. Sauf que les minières, elles sont souvent présentes et elles sont actives dans des pays risqués. Voilà, il y a toujours des risques sur l'exploration. Une exploration qui coûte par ailleurs de plus en plus. Les contraintes environnementales aussi qui font que ces valeurs minières, n'étant pas ESG, bah, elles sont exclues d'un certain nombre de portefeuilles. Il y a des vents contraires sur le potentiel des valeurs minières.
Il y a des vents contraires, mais justement, à mon sens, Guillaume, ce sont des vents favorables aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que ces vents contraires, ils ont conduit au fait que vous avez eu beaucoup, vous avez eu très très peu d'exploration minière au cours des 15 dernières années. Et ça, ça veut dire que vous avez une offre de métaux qui est très faible. On a eu effectivement des grandes difficultés à faire approuver une exploration minière. Not in my backyard, personne ne veut avoir une exploration minière dans son pays. Donc effectivement, on n'explore pas. De l'autre côté, une hausse des taux d'intérêt, donc du coup, vous ne pouvez pas trouver des financements pour explorer. Et puis finalement, si jamais vous aviez réussi à le faire, vous aviez des bilans pour ces entreprises minières qui étaient très peu sains. Compte tenu du fait qu'elles avaient beaucoup trop dépensé entre 2000 et 2010, il fallait qu'elles nettoient leur bilan et donc finalement elles ne l'ont pas fait. Donc pas de dépenses et du coup une offre qui est qui augmente de façon très faible pour ces entreprises minières à un moment où vous avez une demande qui augmente. Et c'est ça qui fait que c'est intéressant.
Mais tout ce que vous voulez. La demande augmente, mais elle est cyclique. Elle restera cyclique, la demande.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tout
est cycle. Je me fais l'avocat du diable.
Tout est cycle, Guillaume. Mais effectivement, tout est cycle. Mais je pourrais vous répondre la même chose sur la technologie. J'achète un iPhone, mais je n'en rachète pas un le lendemain. J'achète une voiture, je ne la rachète pas le lendemain. Mais on va me dire, oui, mais il y a un super cycle qui s'appelle l'intelligence artificielle. Eh bien, sur les métaux, on a, à mon avis, le même environnement aujourd'hui, qui est une demande qui va être indépendante du cycle. Pourquoi ? Parce que vous avez une demande qui vient venir des banques centrales. Les banques centrales aujourd'hui sont très peu présentes sur le marché de l'or. Vous avez uniquement 13% des réserves des banques centrales dans le monde qui sont en or.
Même si elles en achètent de plus en plus.
Elles en achètent de plus en plus, ouais. Mais c'était 40% des réserves des banques centrales qui étaient en or il y a 40 ans. Ah oui. Aujourd'hui, 13%. La Banque centrale de Chine, elle est passée de 3,5% à 4,5% en or. Oui, oui, oui. Il y a encore du chemin à faire si on veut arriver à quelque chose qui s'apparenterait à la moyenne. Et une simple augmentation de 0,5% de la demande d'or de la part des banques centrales, c'est 50% de la production annuel d'or qui est consommé. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de la demande. Ça, c'est les banques centrales. Oui. Et puis, vous avez d'autres facteurs de demande pour les métaux. Tout simplement, le changement de notre mix énergétique dont on parle tous les jours. Mais un changement de mix énergétique, ça a un impact pour la demande de métaux. Aujourd'hui, c'est 15% de la demande de cuivre qui est consommée pour la transition énergétique. En 2030, ça sera 25% de la demande de cuivre qui sera consommée. Et puis, on parlait tout à l'heure de la Chine, de Xi Jinping, des tensions géopolitique. Aujourd'hui, la solution que nos politiques nous proposent, c'est quoi ? C'est le reshoring. On nous dit, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va produire nous-mêmes. Oui. Ben, quand on produit nous-mêmes, ça veut dire qu'on demande des métaux parce qu'il faut construire des usines, il faut construire des infrastructures. Et donc, c'est énormément de demandes qui arrivent de point de vue structurel.
Aux États-Unis, beaucoup d'usines se construire et tout se bâtir. Le reshoring, donc, la relocalisation dont on parlait, effectivement, et tout ça, c'est très demandeur. Et du coup, d'ailleurs, on voit par exemple Amazon qui a annoncé l'ouverture Amazon d'un centre tout près d'une centrale nucléaire, comme par hasard, parce qu'il faut de l'énergie aussi pour ça.
Voilà.
Bon, on est ensemble, réunis, c'est le bullshitomètre au cœur de la famille. Vous n'allez pas vous en tirer si facilement, Céline. Sabrina vous interroge.
Oui, j'ai une question pour vous, Céline. Ah. Allez-y, préparez-vous. Alors que les actifs mondiaux, l'or et les mines représentaient 26% des actifs mondiaux en 1981, ça ne nous rajeunit pas. Oui. Et bien maintenant, c'est quoi ? C'est 1%. Alors vous pensez que ce sera beaucoup plus
Effectivement, ça mérite plus. Et moi, je trouve qu'effectivement, ce chiffre est fascinant. 26, 1%. Et si on regarde en arrière, en 1921, c'était 28% des actifs mondiaux qui étaient dans l'or. Donc on voit bien qu'entre 1921 et 1981, on est resté sur un niveau très élevé d'investissement sur l'or et les minières. Ça faisait partie d'un patrimoine classique pour garder son patrimoine dans le temps. Aujourd'hui, on est tombé à 1%, tout simplement parce qu'on a eu 40 ans de baisse des taux d'intérêt et on a eu d'autres classes d'actifs qui ont remplacé l'or, par exemple l'immobilier qui représente aujourd'hui 37% des actifs mondiaux. Mais je pense et j'en suis convaincue qu'effectivement on a eu de la marge entre les 1 et les 26% et ça me semblerait pas totalement fou de retrouver un juste milieu entre les deux.
Bah d'ailleurs la valeur des mines d'or elle a quand même été multipliée par 17 si mes souvenirs sont bons entre 2001 et 2011 et vous pensez que dans la décennie qui va suivre on aura le même mouvement ?
Et je pense qu'il effectivement.
Pour les mines, c'est-à-dire que les mines progresseront autant que l'or a progressé, par exemple.
C'est tout à fait possible, parce qu'effectivement, on a un environnement qui, à mon sens, se rapproche beaucoup de celui qu'on avait connu en 2000. Souvenez-vous, en 2000, on ne parlait que de l'Internet si on était sur un plateau de télévision. Or, entre 2001 et 2011, les mines d'or ont fait x17. Eh bien, ce n'est pas le sujet qui était abordé sur les plateaux en 2000. J'étais d'ailleurs analyste sur les mines en 1999 et je peux vous dire que mon téléphone ne sonnait jamais.
Vous étiez bien seul.
Mais on était tout seul alors que mes camarades sur les télécoms avaient un téléphone qui sonnait toute la journée. Donc, c'est ça qui fait l'intérêt aujourd'hui.
Vous êtes là.
Vous êtes avec nous. Donc, réfléchissez. C'était pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, si vous voulez transmettre de l'argent dans le temps pour les prochaines années, à mon sens, ça peut être le moment clé pour investir sur les mines d'or puisqu'elles sont en baisse cette année.
Peut-être un méga-trend donc à venir sur l'univers minier en bourse. On va regarder ça, votre argumentaire très intéressant que vous pourrez, vous tous qui nous suivez, retrouver en replay aussi dans un instant sur notre application BFM Business. Les mines, vous y croyez, mais alors on va aller au bout de votre raisonnement. Je suis investisseur et je vous écoute. Je trouve ça très intéressant intellectuellement, mais comment je passe à la pratique ? Dans quelle valeur minière faut-il à vos yeux investir, Céline ?
Alors, si j'en avais une à vous recommander aujourd'hui, c'est une société qui s'appelle Newmont. C'est tout simplement la plus grosse. C'est la fusion de Newmont et Newcrest. C'est quasiment 10% des réserves d'or dans le monde. Et tout à l'heure, vous aviez un très bon point. Vous parliez du risque géopolitique et des juridictions. Newmont, c'est une société qui est très présente en Amérique du Nord. C'est 48% de ses réserves en Amérique du Nord et 25% de ses réserves en Asie. Donc, des juridictions plutôt stables, ce qui est un élément important quand on parle de minières. Donc, une visibilité de ce côté-là et une société qui profite également d'une baisse de ses coûts d'exploration du fait de la fusion avec Newcrest, des synergies de fusion qui vont permettre au coût de baisser à un moment où, comme je le disais, on peut avoir des revenus qui progressent et une société qui se traite aujourd'hui à 14 fois les bénéfices. Donc, une valorisation qui est très faible pour un leader mondial qui va avoir, à mon sens, des résultats qui vont progresser de façon spectaculaire. Donc, une société qui devrait être, si on se souvient des conseils de nos grands-parents et arrière-grands-parents, qui devrait être un cœur de portefeuille pour nos téléspectateurs pour les prochaines années.
L'économie de demain, enfin, qui commence déjà maintenant à se mettre en place, l'économie de la transition énergétique et de l'intelligence artificielle, ben, pour nourrir cette économie, il va falloir faire appel c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, l'économie du passé, à savoir, effectivement, pourquoi pas les valeurs minières dans vos portefeuilles. Voilà, c'est l'idée. Donc Newmont que vous aimez bien, peut-être un mouvement de concentration à venir par ailleurs dans le cuivre. On se souvient de l'offre de BHP sur Anglo-American, c'est il y a quelques jours. Anglo-American l'a refusé en estimant que cette offre était insuffisante, le niveau était trop bas. Voilà, donc on va voir tout cela se développer aussi. Merci beaucoup, Céline Picmalprade, le bullshitomètre. Et on vous retrouvera aussi dans un instant dans le club pour mesurer le potentiel global des marchés. D'abord, peut-être quand même, notre facteur X. Effectivement, Sabrina, chaque jour, on scrute, on regarde ce que nos auditeurs, téléspectateurs, la communauté financière offrent à voir sur les réseaux sociaux, les différents posts. Et on arrive chaque jour à distinguer un post à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, ce post de The Cobasi Letter à propos de Warren Buffett. Warren Buffett, le gourou des marchés, figurez-vous, allège assez drastiquement son exposition au titre Apple, puisque Berkshire Hathaway, sa holding, a réduit de 13% son exposition à Apple au premier trimestre. C'est pas rien.
C'est pas rien, c'est pas neutre. Bon, après, derrière ce mouvement, qui est une opération assez normale pour un fonds d'investissement, d'alléger pour ensuite muscler sa trésorerie, est-ce que c'est des motivations lié à l'IA, il l'a dit hier comme quoi il avait mis en garde contre les dérives de l'intelligence artificielle qu'il considère comme le nucléaire, ou bien est-ce que derrière il y a peut-être des motivations un peu plus fiscales, quand on sait que il y a eu une taxation en 2023 sur les rachats d'actions, 1%, peut-être Joe Biden voudrait reporter et muscler un peu plus cette taxation, donc à voir. Oui. On n'est pas dans la tête de Warren Buffett, mais...
Il a allégé, ou Berkshire Hathaway a allégé de 13% son exposition au titre Apple. Alors quand même, Berkshire reste très très exposé, c'est quasiment 50% toujours de son portefeuille.
Ouais.
Berkshire
48, oui.
Reste le premier actionnaire d'Apple. Mais enfin, on a cet allègement, peut-être en vue de la présidentielle, peut-être craintive, on ne sait pas, des lois antitrust, en tout cas des arguments antitrust qui pourraient concerner entre autres Apple, des taxations supplémentaires sur les GAFAM. Bref, Apple aujourd'hui, mesdames, messieurs, en direct, il est 11h57 aux États-Unis, à Wall Street, 10h57 pour être précis. Apple perd en ce moment 0,4% alors que Wall Street progresse. La faute, effectivement, donc à Warren Buffett, qui, du coup, en allégeant Apple, augmente sa montagne de liquidités, au point que les liquidités de Berkshire Hathaway lui permettraient de racheter en cash McDonald's. Berkshire, s'il le souhaitait, pourrait racheter en cash McDonald's ou encore Disney, figurez-vous. C'est John Plassard qui nous le disait tout à l'heure à 15h30. Incroyable. Hein.
Incroyable.
Voilà, alors des liquidités pour peut-être attendre un petit creux de marché à venir et revenir. Hey, quel potentiel global en bourse ? Cette question, on la posera dans un instant à nos experts du club. Merci beaucoup.
Merci
Sabrina
Guillaume. Sadi,
les équipes web, BFM Bourse, qui nous accompagnent chaque jour dans la famille. Et puis Céline aussi avec nous. Donc dans un instant, le club Céline Picmalprade. On va mesurer le potentiel global des marchés. Et puis revenir aussi sur la visite de Xi Jinping en France et à Paris. Cette visite qui se poursuit. D'ailleurs, le centre de Paris est un poil paralysé, paraît-il, en ce moment. Je le dis juste pour que ceux qui vont suivre dans l'émission, nos prochains intervenants qui nous écoutent peut-être sur la route, soient bien au courant qu'on les attend toujours, même s'ils sont dans les embouteillages. Je sais, on est solidaires, je sais que vous souffrez, mais on vous attend quand même. Priorité au direct et BFM Bourse qui se poursuit dans 1 minute 30. Il vous reste, je le dis à l'intervenant suivant qui est peut-être coincé dans les bouchons, il vous reste 1 minute 30 pour arriver. C'est short. Allez, à tout de suite sur BFM Business.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.